le...
Gilles, là on est en 1967.
C'est ça qu'on...
Pompidou s'adresse à une France dans laquelle la classe ouvrière, on dit le mot classe ouvrière, hein, c'est pas un mot honteux, c'est pas un mot pornographique, c'est pas un mot ringard à l'époque, où la classe ouvrière est puissante. Il y a des syndicats puissants, il y a des partis de gauche puissants, et c'est, est-ce que on a déjà l'amorce d'une idée pour la classe, puisqu'on est dans une époque où on parle comme ça, pour la classe que Pompidou représente, au nom de laquelle il parle, d'une peur, puisque vous dites la peur sociale va changer de camp autour de ces 35 années, est-ce que Pompidou incarne une peur?
Oui, bah si on se réfère au cas de Sochaux, par exemple,
Michel Pialou qui parle.
Cette usine que nous connaissons bien, dans ces années-là, le groupe ouvrier, on dit effectivement sur place la classe ouvrière, et c'est une expression à laquelle tout le monde recourt. Le groupe ouvrier apparaît puissant. Il apparaît surtout puissant parce qu'il est organisé autour des ouvriers professionnels. Ces ouvriers professionnels ont une conscience. Ils ont des schèmes politiques en tête, ils ont des références en tête, ils agrègent autour d'eux d'autres groupes, et notamment les nouveaux ouvriers qui viennent d'arriver dans les années 60 de la campagne ou de pays lointains, et l'agrégation se fait sans problème. Ils imposent leur logique, et c'est eux qui donnent l'impulsion. Au fond, la question forte, c'est celle des acquis qu'ils doivent obtenir, et ils pensent que ils sont l'avant-garde, et les autres progressivement acquerront les mêmes choses, obtiendront les mêmes droits, etc. Il y a des locomotives, il y a Renault, bien sûr, qui est le phare de la classe ouvrière, mais Peugeot aussi joue un grand rôle. Et cette puissance, bon, elle va se manifester dans le conflit de 68, dans les événements de 68. C'est quand même la grande grève ouvrière, ça. 10 millions de salariés sont dans le coup. Et parmi eux, les ouvriers sont le groupe largement dominant.